Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, ainsi que je l'indiquais au début de ce chapitre, il doit y avoir quand même maintenant une quinzaine de jours, l'on évoque fréquemment Nostradamus. Alors, une chaîne de télévision lui a récemment consacré une soirée entière. Alors, un petit rappel, Nostradamus ou Michel Notre-Dame, son nom véritable, est né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy-de-Provence. Il fera des études à Montpellier, sera apothicaire, médecin et astrologue. Vers 1533, il s'établit près d'Agen et se marie avec Henriette d'Ancosse qui lui donnera deux enfants. Ils décéderont tous trois, sans doute, victimes de la peste. Par la suite, Nostradamus va voyager en France et revient en Provence. Et en 1547, il se remarie avec Anne Ponsard, dont il aura six enfants. L'aîné, César, sera consul de Salon de Croix, aujourd'hui Salon de Provence. Il sera peintre, poète et sera également le biographe de son père. Nostradamus, lui, voyage en Italie et publie un traité des confitures et fardements, onguents aux vertus apaisantes et guérissantes. Il publie également des almanachs et des prédictions perpétuelles qui seront ses prophéties. En 1555, en Blois, Catherine de Médicis appelle à la cour, mais il a des détracteurs et sera arrêté puis remis en liberté. Le 10 juillet 1559, ben ma foi, meurt Henri II, victime d'un éclat de lance lors d'un tournoi contre le comte de Montgomery, commandant de la garde écossaise. Alors, Nostradamus l'aurait prédit dans ce quatrain désormais devenu célèbre. Alors voilà ce quatrain. Le lion jeune, le vieux affrontera, en jambélique, en singulier d'aile, dans la cage d'or, les yeux lui crèvera, deux plaies, une, puis mourir, mort cruelle. Effectivement, le roi décédera quelques jours plus tard. Alors, en 1564, Charles IX, qui succède à François II, lui rendra visite lors de son tour en France, et la reine le nommera médecin du roi, ce qu'il protégera en quelque sorte. Nostradamus décède le 3 février 1567. Ses prophéties connaîtront plusieurs éditions, mais il faudra attendre près de 400 ans pour qu'il soit remis au goût du jour, et ce, comment je pourrais dire, grâce au docteur Pigère de Gurbert, dont on a déjà parlé, et cela suite à une histoire un peu rocambolesque que nous compte son fils, Jean-Charles de Fombrune, né à Sarlat en 1535. Alors, dans son ouvrage, ce que Nostradamus a vraiment dit, publié chez Stock, en 1976. Alors on va voir un peu ce qu'il nous dit sur le sujet. Voilà, c'est dans ce cadre contemporain de l'époque de Nostradamus que mon père va, si je puis dire, rencontrer fortuitement le médecin de Salon de Croix, donc Nostradamus. En effet, un après-midi d'été 1934, il est dans son bureau, des malades bavards dans la salle d'attente pour tuer le temps. Le docteur raccompagne un client et fait enfin entrer un autre. Il s'agit d'un homme distingué, de bonne allure. Au premier coup d'œil, il sait que ce n'est pas un sarladé. Dans ces petites villes de province, telles que Sarlat, tout le monde connaît tout le monde. Ce malade d'occasion est venu consulter le docteur qui lui prescrit quelques drogues et n'établit pas de fiche. J'ai aucune chance de le revoir. Le client quitte la Dordogne le lendemain. Consultation terminée, cet inconnu, avant de se retirer, tient au médecin ce langage. J'ai entendu dire, docteur, que vous étiez un être exceptionnellement érudit et j'ai pensé que vous devriez vous pencher sur l'œuvre de Nostradamus. J'ai entendu parler du personnage, lui a-t-il répondu, mais cela ne m'intéresse pas particulièrement. Sur quoi le client sort de sa poche un petit livre et le posant sur le bureau, vous n'aurez qu'à jeter un œil sur ce texte lorsque vous aurez fini vos consultations. Sur ce, le client se retire sans laisser ni nom ni adresse. Le soir après le dîner, dans la grande salle à manger dont les poutres vernies du plafond brillent étrangement aux lueurs de flammes qui vacillent dans la grande cheminée du temps de Louis XIII, dont le linteau a été décoré par mon père des armes de Pigard de Gurbert. Celui qui va devenir Max de Fombrune est assis dans un confortable fauteuil de cuir, la fumée de sa pipe s'engouffre dans la cheminée. Il a pris avec lui le petit livre laissé par son client. Il l'ouvre à la première page et constate qu'il s'agit d'une édition originale des prophéties Nostradamus réalisées à Lyon en 1606. Un document de grande valeur abandonné par ce mystérieux visiteur, pourquoi? Nul ne peut répondre d'une manière définitive. Un tel événement, pour les uns, ce sera le hasard, pour les autres, la providence. Cependant, il nous semble facile d'imputer au hasard un événement dont on ne connaît ni les causes ni la finalité. Puis le petit ouvrage est ouvert au milieu de la lettre à Henri III, donné de texte en prose avec la lettre à son fils César de l'œuvre de Nostradamus. Alors il poursuit ainsi, le docteur de Fontbrune va se pencher sur le texte, l'étudier pour essayer de comprendre, mais il s'aperçoit vite qu'il faut un travail méthodique et considérable pour le décrypter phrase après phrase, quatrain après quatrain. Il va donc travailler d'arrache-pied pendant 4 années, à l'issue desquelles, en 1938, il va publier la première traduction intégrale du texte de Nostradamus. Alors bien sûr, là, il va faire des recherches sur ce genre de prophéties, de Malachie, l'Apocalypse de Saint-Jean, les grands Ézéchiel, Prémol, Orval, etc. C'est cette connaissance approfondie que tout ce que la civilisation judéo-chrétienne a produit comme prophétie va lui permettre d'avoir pour la première fois une vision globale du phénomène prophétique et une compréhension complète des pronostics du médecin de salon, donc Nostradamus. Dans la première édition de sa livre en 1938, les prophéties de maître Michel Nostradamus, le docteur de Fontbrune, prévoyait la guerre franco-allemande et la perte de la guerre par l'Allemagne, ainsi que la mort du pape Pie IX pour le mois de février 1939. Voilà, et puis il y a l'annonce de la perte de la guerre 1939-45 par l'Allemagne, allait provoquer de la part du gouvernement de Vichy des réactions inattendues. Le livre étant purement et simplement censuré, interdit, retiré de toutes les librairies de France, 2000 volumes étaient brûlés à la composition fondue, comme si la destruction du support matériel de cet esprit prophétique pouvait enrayer le cours de l'histoire. Ce thème a été traité par Ray Bradbury dans son livre Fahrenheit 451, porté à l'écran par François Truffaut. Alors, je vais vous donner la suite. Alors la suite, eh bien, ma foi, je vais l'emprunter au regretté Alain Bernard, qui dans un article dans Sud-Ouest du vendredi 14 août 1981, donc donne un article, Nostradamus doit un sarladin ne pas tomber dans l'oubli. Et voilà ce que va nous dire donc Alain Bernard, qui interroge donc l'éditeur Michelet. Voilà un peu ce qu'il va nous dire. Alors, saisi d'une illumination, il travailla donc, il parle de Fontbrune, il travailla d'arrache-pied à traduire et à interpréter Nostradamus jusqu'en 1938, son manuscrit prit forme. Quand il est terminé, il vient me voir pour que j'imprime et édite ses prophéties de maître Michel Nostradamus, expliquées et commentées. J'avais beaucoup de travail avec mes affiches et mon journal, le glaneur sarladé, j'insistais, il insistait, et je me laissais prier. Je retardais le mouvement, je n'y croyais guère, et un jour j'avouais franchement à Pigeard de Gurbert que je n'avais de quoi payer la tonne de papier nécessaire à l'impression. Le bon docteur signa un chèque de sa poche pour avancer les frais, j'étais au pied du mur, je mis le volume en composition et dans mon prot pour les notes en latin et en grec, et participant même à la mise en page. Pigeard voulait un premier tirage de 5000 exemplaires. Je donnais l'ordre d'en tirer que 500. Au bout de 15 jours, à la librairie Haïdar, à peine livré, des 500 exemplaires, demandaient immédiatement les 4500 autres. Entre-temps, un journaliste de Gringoire, connu de Pigeard, lui avait fait l'amitié d'un entretien. Alors je retardais donc le reste des ouvrages en cours et je dus embaucher pour le pliage et le brochage de ces prophéties si surprenantes pour un imprimeur. À 40 francs le volume, j'entrevoyais déjà la fortune, d'autant qu'affluaient des commandes directes des libraires du Canada, de Suisse, de Belgique, des Pays-Bas. Ainsi, en 1939, avec une équipe de 15 personnes, nous livrions Nostradamus par lot de 500 livres. Mais comment s'envolèrent mes éditions de 1938, 1939, 1940, que Pigeard avait réussi habilement à enrichir d'une espèce de certificat, en fait un simple accusé de réception du Vatican, pourtant hostile. Alors non, mon nom devait par la suite encore apparaître dans des éditions, donc c'est Michel qui parle, les éditions au succès plus timide de 1946, 1958 et encore de 1975 avant que tout ne soit repris par d'autres, sans oublier dans la foulée sur mes presses et prédictions mystérieuses de Prémol ou la divine tragédie de Louis VII de Pigeard de Gurbert, alias Max de Fontbrune, toujours, voilà. Donc c'était un article d'Alain Bernard de Sud-Ouest de 1981. Voilà, alors la suite, ben, je vais l'emprunter à un article d'Henri Miller Et Henri Miller va écrire donc à Pijard de Gurbert. Voilà. Alors c'est publié de Big Sur en Californie le 21 février 1951. Mon cher docteur de Fombrune, je ne saurais vous dire avec quel plaisir j'ai lu les deux livres que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer. Je prends la liberté de vous écrire longuement et dans ma propre langue, car je ne peux m'exprimer aussi clairement que je souhaiterais en français, car j'ai l'intuition que vous parlez notre langue et que vous excuserez toute apparente discourtoisie. Il y a deux choses entre autres que je ressens intuitivement en ce qui vous concerne. D'abord, que vous devez posséder à fond l'art du scalpel. Ensuite, que vous avez dû hésiter au début de votre carrière entre la magistrature ou le barreau et la médecine. Le livre sous Louis XVII, dont on a déjà parlé, est un chef-d'œuvre du genre et dévoile bien plus que votre tempérament et votre caractère qu'une simple passion ou préoccupation pour les oracles de Nostradamus. Je dois avouer que j'éprouve une grande curiosité de savoir comment vous vous êtes trouvé engagé dans une tâche aussi gigantesque. Voilà, donc c'était le début d'une lettre d'Harry Miller, qui est assez longue d'ailleurs, et de 1951. Voilà, alors, donc je dirais que dans ce Nostradamus avait vraiment dit, figure donc, comme je viens de le dire, cette lettre d'Harry Miller. Alors, une petite précision, de Fombrune, était une branche familiale, donc de Pijard de Gurbert et Tente, dont le nom sera repris comme pseudonyme. Voilà, alors, pour conclure, je dirais que le docteur Pijard de Gurbert, après Sarlat, s'installera à Périgueux, où il est nommé médecin-chef du service de dermatovénérologie. Il donnera des cours à l'école d'infirmières, assurera des consultations au service médical de la SNCF. Il s'installe à Aix-en-Provence et décède le 6 juin 1959 à Montpellier. Donc, Jean-Charles, son fils que j'ai rencontré il y a quelques années sur les rives de la Dordogne, bien ma foi, il prendra sa suite. Alors moi, je dois dire que dans ma bibliothèque, j'ai les prophéties de Maître Michel Nostradamus, c'est la deuxième édition de 1939. Alors, Jean-Charles de Fombrune a écrit, notamment, autrement dit, avec les Nostradamus, il a écrit 400 ans d'histoire prédit, la prophétie du nouveau pape, Nostradamus aura-t-il raison, Monsieur de Nostradamus, nouvelle prophétie, la comète et les prophéties, alors là c'est édité par Michel Lafoy en 1986, la prophétie des papes, Saint-Malachy, etc., édition Nouveau Chim 1984, et Nostradamus, historien et prophète, tome 2, lettre à Henri, roi de France, second, d'édition Nouveau Chim 1982, et puis Nostradamus, historien et prophète, les prophéties de 1555, à l'an 2000, et c'est l'édition du Rocher en 1980. Voilà, je pense que mon temps doit être écoulé. Je vous remercie de votre attention et à la semaine prochaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.